Bienvenue à la soirée radiophonique d'Amnet Radio. Comme chaque semaine, nous commençons par l'interview d'acteurs de l'art d'aujourd'hui dans notre émission d'Amnet Art Contemporain. En milieu de soirée, vous retrouvez nos confidences et lectures érotiques dans l'émission Eros d'Amnet. Pour conclure cette soirée, découvrez toutes sortes de sons et laissez-vous aller sur plus d'une heure de musique intégrale. Lors de l'émission d'Amnet, création sonore et musicale, dès à présent retrouvez les infos ou les musiques et les travaux des artistes en vous connectant sur http://damienbourdeau.freef.fr. Bourdeau s'écrit D-A-U-D. Damned Art Contemporain. Retrouvez chaque semaine un ou une artiste, une curatrice ou un curateur, une asso, un ou une critique de l'art contemporain qui vont nous parler de leur réalisation, de leur parcours, de leurs conditions de travail et de leur vie. Ce soir, nous accueillons
Alain Chauvet. Je dois donner mon âge parce que j'ai 62 ans, que j'ai commencé à peindre en 1962, à mes 17-18 ans, et que cette décision de peindre, elle par contre, remonte à bien plus tôt. C'est une décision prise à mes 9 ans. Je regardais mon frère aîné qui dessinait à merveille, et je me suis dit que ce n'était pas comme ça. C'est pas ça, quoi. Et là, à mes 9 ans, je me suis dit, tout seul, dans mon coin, que je serais peintre. Donc, à partir de cette décision, de cette promesse, j'ai abordé la peinture autour de mes 16 ans. Voilà. Ce qui donne 16-17 1962, puisque je suis né en 1944. Voilà, quoi dire d'autre sur mon rapport à la peinture. Oui, je disais que mon frère dessinait à merveille, c'est-à-dire qu'il copiait à merveille les images qu'il choisissait de copier. Et ce rapport à la copie, tout à la fois me fascinait, et tout à la fois je me disais que c'était pas ça, ça devait pas être ça, l'art. Que peindre, ce n'était pas ça. Et savoir ce que c'était, tenter de savoir ce que c'est que voir du côté de l'art, est l'affaire de ma vie. Car je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon évolution, qu'il y avait une façon de voir du côté de la science, il y avait une façon de voir du côté de la politique, il y avait une façon de voir du côté de l'amour, et il y avait sûrement une façon de voir du côté de l'art. Et que voir du côté de l'art, ça ne pouvait pas être voir comme voit la science. Ça ne peut pas être voir avec les mêmes yeux que les yeux de l'amour. Et que le regard de l'art ne pouvait pas être celui du regard de la politique. Encore que ces quatre champs, ces quatre modes d'aborder le rapport de l'homme au monde, de l'homme à l'univers, je pense que ce sont quatre modes, il n'y en a pas d'autres, ces quatre modes-là de rapport d'une humanité à ses conditions d'existence au monde, voilà. Donc, qu'est-ce que voir du côté de l'art? Voilà la question que j'expérimente, qui me hante, que je tente de poser avec, d'affirmer avec sérieux et quand je le peux, d'argumenter, c'est-à-dire de réfléchir la question après que je la pose, bien sûr cette question je la pose essentiellement en pratique. L'art est une pratique, disons, la peinture est une pratique de cette question, mais il m'arrive de revenir en dehors du geste même de peinture, de réfléchir ce que j'ai fait. Donc de revenir sur un autre, selon un autre point de vue à la question, qu'est-ce que voir du côté de l'art ? Voilà. Cette question a rencontré, disons, n'a pu se poser vraiment que du moment où j'ai rencontré un impératif. Car je ne conçois pas qu'on ne voit qu'avec les yeux. Voir, ce n'est pas une fonction d'œil, ce n'est pas une question strictement rétinienne. Il y a bien quelque affect, quelque idée sous-jacent au fait de regarder ou de tenter de voir quelque chose. Et c'est en 1964, très précisément, au tout début de l'année 64, j'étais déjà à peindre, donc déjà depuis 1962. Mais jusque-là, j'avais plutôt été dans l'imitation de gens comme de l'art brut, de Buffet, ou de façon plus poétique, ou autrement poétique, je veux dire, l'influence de Miro. Et donc je me suis à ce moment-là dégagé de ces influences quand m'est venu cet impératif, et qui est le mien depuis toujours, depuis cette date-là, janvier 64, voix du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. Voilà ce que m'intimait de voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. Cet impératif s'est imposé à moi sans que je sache véritablement ce que ça pouvait pouvoir dire, ce que ça allait dire en peinture. Mais voir n'était plus justement sous la stricte influence de ce qui était déjà là, donc les peintres que j'estimais, les influences qui me venaient de toutes parts, les façons de voir qui justement me conditionnaient, réglaient mon regard. Tout cela, toute cette façon d'être réglé, a été inquiété par cet impératif, cette idée, ce type d'idée affecte. J'étais appelé, une sorte de façon de dire, j'étais appelé à voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. Je n'ai jamais dérogé à cette question. Elle m'est toujours autant difficile qu'au départ, mais c'est à partir d'elle que la décision de voir et comment mon propre voir s'est orienté. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, and who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blood, who by avalanche, who by powder, who for his greed, and who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by braver sin, who by accident, who in their solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, who shall I say is calling?
Oui, dit comme ça, voir du côté qui apparaît en trop et ne compte pour rien, paraît dire quelque chose, mais pour moi, donc, c'était la décision, c'était tout à la fois, ça relevait d'une décision de voir et une orientation de se voir. Je m'orientais, je devais m'orienter dans le visible, à voir du côté, justement, du côté de ce qui y apparaît en trop et ne compte pour rien. Et aux yeux de qui quelque chose, aux yeux de quoi quelque chose apparaît en trop et ne compte pour rien? Je pense que très, très simplement, c'est à partir d'un état de choses, à partir d'un état de situation. Donc, d'une certaine façon, voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien, c'est toujours en dérogeant aux yeux de ce qui compte et de ce qui compte pour quelque chose et qui fait valeur, qui fait norme, qui fait code, ce que l'on voudra. Dans un premier temps, nous sommes en 64, face à l'enjolivement de l'art abstrait. Il y avait un art abstrait dominant qui était très décoratif. Et étant venu moi-même, né, je suis né, oui, je dois le dire, je suis né au Vietnam. Donc, né au Vietnam en 1944, j'y ai vécu la fin de la guerre contre le Japon. Tout enfant, tout bébé, parce que cette, Ces événements ont duré jusqu'au tour des années 47, hein, jusqu'à l'approche des années 47. J'ai vécu ensuite la guerre de la France faite aux Vietnamiens. Et je suis parti après la fin de la guerre en 1954. Moi, je suis rentré en France en 1956, j'avais donc 12 ans. Donc l'essentiel de mon enfance, s'est passé à Saigon, au Vietnam. À partir de là, et vous allez voir que ça a un rapport avec mon impératif, à partir de là, j'ai vu, enfant, la misère des Vietnamiens, la misère et la lèpre en Inde, à Djibouti, à Calcutta, à Ceylan. Et le petit enfant privilégié que j'étais à ce moment-là n'a pas sur le coup pris mesure de tout cela. Mais vers ses 9-10 ans, a pris le point de vue du pauvre contre tout ce qui faisait pauvreté. J'ai senti qu'à travers cette misère, ce qui était en question, c'était qu'un monde faisait que des hommes, des femmes, des enfants étaient, eux, privés de faire monde. Donc, inexistés. Et voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien, c'est aussi faire écho à cette expérience d'enfant. Et là, je vois que cet impératif, il est tout à la fois, disons, il relève tout à la fois de l'art et de la politique. Le « ce qui compte », en trop, le « ce », on peut l'écrire tout à la fois « c'e », mais on peut l'entendre aussi comme « c-e-u-x ». Donc ça, le rapport de l'art à la politique, pour moi, se joue là, dans cet impératif qui est éminemment, qui pour moi a une portée tout à la fois artistique et aura aussi une portée politique. Voilà. Donc, cet impératif a posé le point de vue à partir duquel j'envisageais le monde. Et dans ce monde, la discipline que j'adoptais, la peinture, et voilà. Pour revenir à ce qui était la façon dont cet impératif s'est traduit en acte, en peinture, il y a eu trois, avant l'étape d'aujourd'hui, il y a eu trois expérimentations, trois moments d'enquête autour de cet impératif, ou travailler par cet impératif. Ce moment où je disais, où l'art abstrait, cette dimension décorative, et qui correspond dans les années 60 à un développement important de la galerie marchande, d'un développement, d'une mainmise de l'État sur les activités artistiques, à travers ce qu'avait pu développer André Malraux à partir des années 58. Face à cet art décoratif pour appartements bourgeois, j'ai opposé, et dans un monde qui m'apparaissait tout à fait insane, le monde de la guerre, le monde de l'injustice, je voyais mal faire un art qui soit joli, alors que le monde était à mes yeux tout à fait sale. Donc, c'est mon ami, je suis obligé de lui répondre.
Ça se passera.
Oui. Oui, j'en étais à ce moment où, On est dans les années 64, là, où je décide de voir, je suis dans la décision de voir, qui interroge, qui expérimente, qui ouvre à la question de ce qu'est voir du côté de l'art, mais en tant que voir, c'est voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. Donc, face à un art d'enjolivement de la vie, j'ai opposé, moi, une série qui s'appelait Décrassage. Décrassage. Et qui n'était fait sur des bouts de papier, des feuilles d'écolier, feuilles de cahier d'écolier, sur des supports déjà salis, un ensemble de graffitis, que des graffitis, des salissures, des choses complètement déchirées, des graffitis de sexe, des dessins comme on dessine quand on téléphone sur un bout de papier, des chiffres, des autos, tout un ensemble de signes avec des crayons d'écolier, avec du bic, et justement sans peinture à l'huile ou sans aquarelle ou autre chose délicate de ce genre. Donc, et j'utilisais bien sûr aussi, comme j'ai dit, les salitures. Et parce que à ce moment-là, ma position était simple. Comment faire reflet d'un monde dégueulasse par de jolis tableaux. Ça me paraissait impossible pour moi. Par contre, je voulais rendre compte de l'aspect insupportable de ce monde. Et je voulais m'en décrasser. C'était pas faire un reflet satisfait, strictement nihiliste. Je voyais bien qu'il me fallait que je me dégage, je me défasse de ces propres salissures, que je me soustrais à la salissure. Et donc, j'étais amené à m'y appliquer, d'une certaine façon, mais sur un plan symbolique. Le plan d'une activité symbolique. Donc, à un autre moment, j'ai conçu à côté de ces, dans le développement de ces décrassages, choses qui sont passées entre 1964 et 1967, première séquence d'enquête autour de mon fameux impératif. J'ai développé, par exemple, l'histoire de trois plans, ce que j'appelais le plan couché, le plan assis et le plan debout, et qui consistait tout simplement à rencontrer, à partir du couché, c'était les draps de mon lit, comme support, assis, c'était le support de la table où je mangeais, où j'écrivais, et le support debout, c'était le sol. Donc, le drap devenait ma toile, la table devenait aussi le support à partir duquel venait s'inscrire. Alors ce qui donnait aussi donc ces trois plans donnait trois temps. Le drap allait être exposé au bout de trois mois, disons, de salissure des corps, toutes les salissures des corps d'un homme et d'une femme. Le deuxième plan de la table, c'était une table où je mangeais, j'écrivais, et donc qui était couverte d'une nappe en papier, sur lesquelles, cette nappe en papier, elle prenait tous les petits dessins, les calculs pour acheter le pain, tout ce qu'on voulait, les cigarettes, aussi les ronds, les traces de vin, de graisse, et ces nappes. Cette nappe était, ce support, était retiré à peu près toutes les semaines. Donc j'avais un support à trois mois, un support à la semaine, qui faisait 52 nappes dans l'année. Et quatre draps, hein, si je compte bien. Et ensuite, il y avait le sol. Sur le sol, j'avais une portion de sol qui était le coin du lavabo où nous lavions. En dessous, c'est un lavabo, j'avais disposé un lino. Et toutes les traces lino sur l'usure d'un an prenaient, marquaient les traces de passage, éclaboussures et autres, les passages des pieds et ainsi de suite, du sol. Et ça, sur l'année. Et il était retiré sur l'année. Et ce qui faisait que ce support n'était pas strictement rectangulaire, mais épousait les coins et recoins de l'espace où je l'avais disposé. Ce qui donnait trois formats tout à fait différents. Un, irrégulier, celui disposé au sol. Un autre, moyen, celui de la nappe de la table. Et un autre, un peu plus grand, qui était le drap. Et donc tout cela faisait que j'avais un énorme support, celui du sol, un plan moyen, celui du drap, et un petit plan, disons, celui de la table, qui comprenait donc 52 effets de cette table, 4 effets pour le drap, et un effet pour le sol. Voilà. Et j'ai terminé mes décrassages à ce moment-là. Donc, à l'intérieur de cette période 64-67, disons, il y a eu était une façon pour moi aussi de rencontrer sûrement le temps, chose comme ça. Mais j'avais rencontré donc la question du support, la question du temps, la question des salissures. Et le fait que, tout à la fois, une chose m'avait impressionné, c'était une autre façon, rentrer dans une autre gestuelle que celle, par exemple, d'un Pollock peignant sur le sol et éclaboussant sa surface de plusieurs couleurs, de giclures, tout ça. Je trouvais ça tout à la fois fantastique, et tout à la fois un peu trop joli à mon goût. Encore que ce n'est pas ce que je dirais aujourd'hui. Mais à l'époque, à mes 20 ans, c'est ce qui m'apparaissait. Et face à ça, j'opposais les traces des corps qui étaient là, des corps absents. Le mien ou celui de ma compagne d'alors, pour ce qui est de nos repas, de nos endormissements et de nos lavages, voilà. Et de notre, oui, de nos passages sur le sol, voilà. Pour moi, un grand moment, un moment de rupture, mais un moment qui va s'arrêter en 1967, et là, il va y avoir une période d'arrêt. Car je vais poser autrement la question de l'impératif de voir du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. Je vais visiter, justement, enquêter, après, je dirais, autour d'une lecture des textes politiques de l'époque, et tout à la fois aussi, c'est surtout, d'une lecture de l'œuvre de Jacques Lacan, le psychanalyste, la question du « en trop » et du pour rien. De l'impératif, je vais enquêter ça. La question de l'entrop et du pour rien, renvoyant sûrement à une problématique du manque, telle que la psychanalyse le posait, aussi la question de la question du manque, de la castration, du désir, et tout ça. Bon, à ce moment-là, c'est pour vous dire par quoi j'étais interpellé. Et donc ça va être une autre séquence qui va durer de 71 à 73. À l'intérieur de cette séquence, il y a le moment de, il y a eu le moment de 1968. Des questions tout à la fois politiques, artistiques, qui m'ont là aussi amené à beaucoup de réflexions. Et m'ont amené, vont m'amener, durant la période qui va suivre 1973, où je vais arrêter de peindre, vont m'amener à poser, à relever la question politique incluse dans mon impératif, voire du côté de ce qui apparaît en trop et ne compte pour rien. À partir de 1973, je vais en enquêter, en visiter, en apprécier, comment dire, oui, la portée politique. Qu'est-ce qui politiquement se disait là, ou voulait se dire là? Mais donc, avant d'en venir à ce moment, je donc dois parler de cette période 71-73, où outre les ouvrages de Marx, de Lénine, les grands ouvrages aussi de Mao Tse-Tung, il y a les lectures de Jacques Lacan, psychanalyste Jacques Lacan, et du philosophe, à l'époque, des philosophes ou penseurs tels que Foucault, Michel Foucault, Gilles Deleuze, et toutes les gens de l'école freudienne. Voilà. Là, je reviens un peu en arrière pour vous dire que je suis né quand même à la peinture, je suis né à quelque chose de la peinture. Mon premier, mon premier maître en art, ça a été Antonin Artaud. Mais quand je parle de mes décrassages, on pourrait penser aux dessins qu'on connaît aujourd'hui, des dessins d'Antonin Artaud faits à l'asile, et qui apparaissent parfois comme des gribouillis. Et à cette époque, ils n'étaient pas connus, en tout cas du public. Je n'en connaissais rien. Ce n'est qu'après coup que j'ai pu voir un rapprochement entre ce que j'ai pu faire en 67 et les dernières inscriptions, traces d'Antonin Artaud qui datent de 1947. Mais je vous le dis, je n'en savais rien, mais j'étais très proche de ces textes à ce moment-là. Voilà. Cela dit, donc revenons à 71-73, la question de « en trop pour rien » va faire que, à la suite des supports du sol, du lit et de la table, je vais substituer trois formats de tableaux qu'on achète tout fait dans le commerce. Le format figure, le format paysage et le format marine. Ce sont trois formats qui, je pense, viennent, dont les dimensions ont été fixées au XVIIe siècle, autour du XVIIe siècle, et qui renvoyaient donc à des sujets particuliers, paysages, portraits, marines ou natures mortes. Donc ces trois formats, je les ai utilisés, et je les ai utilisés de telle sorte qu'en les combinant, on perdait le format carré, le format traditionnel de la toile carrée, et on avait, disons, plutôt une forme en escalier. Vous voyez ? En escalier. Grand format, moyen format, petit format. Les uns posés sur les autres. Agencés les uns, composés les uns sur les autres. Ce qui faisait soit une pyramide, un peu, une forme de pyramide, soit en prenant l'angle droit, d'un côté l'angle droit et de l'autre côté un profil en escalier. Oui, bon. Et donc, si je pensais la forme initiale, carrée, soit j'avais des morceaux qui manquaient, soit il y avait des morceaux en trop. Et donc j'ai repensé à partir là de cette composition de ces trois formats, l'agencement de ces trois formats, aussi la question de la couleur, telle que, par exemple, le marine, renvoyait la couleur bleue. le paysage à la couleur jaune et la figure au rouge, à la couleur rouge. Ce qui ramenait les trois couleurs fondamentales à partir duquel Mondrian avait œuvré dans les années 20-30. Quoi dire encore sur cette période ? Cette période correspond au moment où je rencontre aussi des artistes très proches du mouvement littéraire tel quel, qu'animait Philippe Solers, des peintres comme De Vade, Marc De Vade, qui est mort, Louis Kahn, et autour, avec eux, des peintres que je ne connaissais pas, mais dont j'appréciais le travail, dont là les noms pour l'instant m'échappent. Par exemple, si Viala, par exemple, connu. Bien, donc là, se posait la question du support, la question de la couleur, et tout cela articulé autour de la question de ce qui apparaît en trop, ou de ce qui se présente comme en manque. Le trop, en trop, en moins. Voilà. Donc ça, ça a duré deux, trois ans. Et mais ce moment qui est un moment sur le plan pictural pour moi important, il y a vraiment un tournant qui me dégage du moment de décrassage, un peu quand même à mon goût mortifère, après tout ça avec le recul. Donc je rentrais dans une réflexion, disons, de quelques éléments traditionnels de la peinture. Le support, la couleur et le trait. Voilà. Il est très difficile de tenter de faire valoir ça. Sinon que ça donnait d'assez grands formats, des formats de toile qui faisait 3,50 m de haut, vous voyez, et qui était exposé dans la salle pour la première fois, était installé, puisque ces tableaux qui étaient combinés n'étaient plus disposés sur le mur, mais étaient pris comme des objets que je combinais entre eux, et qui se placer dans l'espace d'exposition, selon les angles du mur, selon des positions dans la pièce, qui faisait qu'il n'était plus au mur, mais joué avec les murs et les sols. Donc, ça correspond, 1971, à aborder la question de l'exposition même. Comment les choses viennent à s'exposer dans le lieu même où elles se montrent. Et donc, intrication là entre le tableau comme, disons, détachement d'une portion de mur. En fin de compte, la toile combinée et faisant pyramide ou autre, était un peu comme si j'avais des pans de mur, des pans de mur, que j'avais agencé et qui venait à nouveau se combiner avec les murs et les sols. Voilà un peu quelques traits concernant les enquêtes de ce moment. À partir de 1973, donc, j'arrête de peindre et je vais m'arrêter de peindre jusque en 1984. Donc ça fait pas mal. De 73 à 84, si je ne dis pas de bêtises, 11 ans, durant lesquels je vais mettre complètement la peinture entre parenthèses, ni voir ni lire quoi que ce soit qui relève de cette pratique. et je vais me consacrer essentiellement à la question politique et au militantisme autour de quelque idée politique qui me feront rencontrer tout aussi bien le Parti communiste que les mouvements maoïstes. Parti communiste auquel j'ai adhéré durant 5 ans, non, pardon, durant 10 ans, dans lequel j'ai eu des responsabilités et duquel je me suis dégagé en 1981. Ayant milité à l'intérieur de ce parti, non pas à partir de ce que décidait sa direction d'alors, mais plutôt pour défendre et tenter de faire valoir les idées politiques que j'avais rencontrées à travers l'œuvre philosophique de Althusser, du philosophe Althusser. L'idée étant que ce parti se dégage du vote, de l'État, de la question de la prise du pouvoir d'État, et s'intéresse véritablement aux gens qui sont au travail, qui travaillent, et avec eux envisager une autre façon d'envisager de faire de la politique, faire la politique. Voilà. Donc, mon impératif m'a amené à un moment donné à enquêter sur que faire de la politique et c'est quoi faire de la politique. Et donc, c'était pour moi faire de la politique du côté de ceux qui apparaissent en trop et ne comptent pour rien. Toute chose qui était passablement, mal prise en compte, désastreusement mal prise en compte par le Parti communiste de l'époque. Mais seul parti où j'avais pu, où j'avais cru pouvoir m'organiser pour tenter de faire quelque chose. C'est assez difficile d'en discuter comme ça. Voilà. Donc, ces années qui me font... qui font suite aux événements de 1968, où la question de la fin des partis ou de l'insuffisance de l'obsolescence des partis concernant la question politique c'est posé à moi. Et c'est assez amusant, je l'ai posé à l'intérieur même des vestiges d'organisation. Je les ai posés à partir des vestiges d'organisation que représentait par exemple le Parti communiste français. Sachant que l'idée même de parti, l'organisation même liée au parti, était historiquement dépassée, puisque ces partis étaient liés à la conquête du pouvoir et n'avaient vu que le pouvoir d'État, et que c'était bien de cette question-là qu'il fallait se dégager pour poser plutôt une autre question. C'est la capacité même des gens à s'organiser, à organiser la vie sans être chapeauté par quelque parti étatique que ce soit. Voilà. Donc c'est cette épreuve difficile qui aujourd'hui se pose à nouveau à mes yeux. Toujours, quelle est la capacité des gens à s'organiser ? Parce qu'il y a une conception de la politique qui dit « les gens ne pensent pas, donc il faut penser à leur place ». et que les parties s'est fait pour ça. J'ai mis des années à me dégager de cette idée, mais je m'en suis dégagé pour affirmer et tenter pour affirmer que, la capacité de la politique se trouve du côté des gens, indépendamment de la question de la prise du pouvoir d'État. Et donc, ce n'est pas du côté de l'État que je pense le monde, c'est du côté des gens et de leur propre capacité à s'organiser pour faire valoir un autre monde que le monde dans lequel où ils souffrent, dans lequel ils souffrent. Voilà. Pour clore momentanément la question de mon rapport à la question politique, qui, je le rappelle, est inscrite dans l'impératif qui me questionne et dont, depuis toujours, je tente pas à pas de faire clarté. Car à chaque étape, à chaque enquête, qu'elle soit artistique ou militante, qu'est-ce qu'entendre ? Que veut dire voir du côté de ce qui apparaît en trop une compte pour rien ? Alors, j'en ai bien, c'est d'aller à la rencontre de l'idée qui est au cœur de cet impératif. Voilà. L'idée au cœur de cet impératif, voilà ce que l'impératif porte comme question, comme exigence, et qui à chaque fois a trouvé des pistes d'enquête, des expérimentations avec leurs effets, leurs conséquences, hein, décrassages, oui, c'est décrassages. Deuxièmement, en trop, en moins. Troisième, moments militants. De la fin des partis, du dégagement de l'État et des partis, pour aller toujours vers ça, ce qui apparaît en trop aux yeux même de cet État. Voyez ? Voilà. Question toujours difficile, délicate.
Perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence. Tel Machiavel, telle la belle ganse, tel Guillaume Tell, à quoi tu penses? À quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Perds ton temps, à te percer à jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel, à l'avenir, laisse venir, laisse venir.
Après 84, le moment politique que cela a recouvert, je me pose à nouveau la question de l'impératif à travers l'exercice de la peinture, la question artistique. Je dois dire que de 84 à 90, je patauge. Je patauge énormément. Je ne sais plus par quel bout reprendre la question. Et je vais lire, énormément lire, du côté de la philosophie, pour m'aider à y voir clair dans la situation. Et la première grande rencontre que je vais faire durant cette période, c'est la lecture du philosophe Gilles Deleuze. Aussi des gens comme Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Lacoula Barthes. Mais pratiquement Je suis dans le noir. Il faut dire que, à ce moment-là, je suis matériellement plus bas que bas. Je vais, durant ces années, disons, 84-90, essentiellement peindre dans ma tête. Je n'ai qu'un lieu où me loger, mais je n'ai pas d'atelier, d'espace pour travailler, expérimenter. Et donc peindre dans sa tête, tenter mener enquête. Et sur ce plan-là, c'est très très difficile. Et il y a de quoi devenir un peu, même beaucoup, devenir fou. Mais je ne cède pas. Je sais qu'il ne faut pas que je cède sur ce désir de voir du côté de ce qui apparaît en trop et compte pour rien. Donc je sais que c'est de ce côté-là que se pose la question de l'éclat. Car arrive à ce moment-là, face à l'art comme reflet, à l'art comme reflet de son temps ou comme expression de son temps, une autre conception de l'art qui est que l'art déroge justement, excède le reflet pour être une pensée de l'éclat. C'est grosso modo à ça que j'arrivais. Est-ce que peindre, par exemple, c'est exprimer quelque émotion personnelle? Est-ce que c'est exprimer quelques valeurs ou quelques émotions du temps? Être à l'expression de son temps, être en expression du temps qu'il fait et comme il fait? Non. Je me dis, et je le savais, mais c'est une chose qui se précise à moi. Non. L'art est une pratique qui se soustrait et à la nature et à la culture. J'ai essayé de m'expliquer. L'art ne relève pas d'une expression du corps de l'artiste. Ni non plus n'est un strict effet de la culture dont cet artiste relève. Ni nature, ni culture. Ni l'art n'est essentiellement soumis, même s'il l'est, disons, aux pulsions, aux besoins des corps, aux humeurs, aux viscères, ce que vous voudrez. On pourrait même dire au sexe. Ni d'un autre côté, strictement, aux valeurs, aux données culturelles d'un État, d'une nation, d'un moment. Donc, si je suis bien déterminé